Bonjour, bienvenue à la French Connection épisode 140. Cette semaine, je suis avec Patrick.
Hey, salut tout le monde.
Vincent.
Salut.
Et Steve.
Bonne fin de semaine à tous.
Shameless plug, ben la seule shameless plug à donner, c'est que pas mal tous les événements qui existent sont annulés. Fait que surveillez ce qui se passe. Certains ont virtualisé leur événement, d'autres les ont simplement reporté à une date ultérieure. Donc, assurez-vous que c'est ça. Donc là, et l'enregistrement qui était prévu au Québec sec du 26 mars, on va vous revenir avec une stratégie pour être capable d'avoir quelque chose de simili. Pas trop de touchage d'humain, parce qu'il semblerait que c'est un peu déconseillé actuellement de se toucher. Il faut garder une distance de bras minimale pour garder toute la propagation loin de nous. Et nous sommes tous en virtuel présentement. Donc, commençons avec les nouvelles. Steve a quelques nouvelles à nous parler justement sur le COVID-19 qui occupe beaucoup l'actualité. On a fait un épisode spécial précédemment. Là, on va juste en parler de façon un peu plus générale.
Merci, Nick. Ben, effectivement, ce qui est difficile à voir pour la majorité des gens, c'est qu'est-ce que ça a comme impact, parler d'informatique avec une infection virale qui se propulse un peu partout. Ben, on a entendu cette semaine qu'il y a des mesures qui ont été suggérées, que les gens, juste pour commencer avec cette notion-là, travaillent en font du télétravail et travaillent donc à partir de chez eux. Ben, là-dessus, c'est quand même, ça est intéressant, là, tu sais, tout le monde autour de la table ici, on a entendu des philosophies de vie, de travailler en télétravail, ça c'est fantastique, ça amène beaucoup d'avantages. Là, on est dedans. Là, c'est la réalité de le mettre en pratique, ce télétravail-là. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que, un, ils n'ont pas les capacités, deux, ils n'ont pas assez de laptops donnés à tout le monde qui s'en aille chacun chez eux. Trois, ils font comment la gestion d'informations? Fait que présentement, beaucoup de compagnies, juste pour comme un exemple au gouvernement du Québec, ils n'ont toujours pas de structure sur la sécurité de l'information. Fait que tout est flat. Autrement dit, l'information, elle est partout égale. Meeting avec le président, ça c'est même affaire que les contre-recevables, ça c'est impensable. Fait que donc, on se retrouve devant un problème où est-ce qu'on permet tout à tout le monde de travailler à partir de chez eux, à partir de leurs ordinateurs personnels, hein, installer le client VPN, se connecter vers le portail d'accès à l'entreprise, c'est-tu normal et correct de faire ça? La réponse est non, parce que l'antivirus et la posture de sécurité de la plateforme à la maison ben n'est sûrement pas de même calibre et de même niveau de sécurité que celui qui est vérifié en entreprise par toutes sortes d'automatismes. Fait que là-dessus, les gens, ben il faut qu'ils travaillent nécessairement. Puis, ça va être aussi une conciliation travail-famille, parce que là, les familles sont aussi avec eux autres, n'est-ce pas? Mais Vincent, est-ce que tu pourrais, ce que tu me racontais tantôt, juste avant qu'on entre en place, est-ce que c'est la même son de cloche dans ta sphère d'entreprise, veux dire ton domaine, ou ce qu'il y a justement dans les grandes entreprises, le même genre de problème avec lequel ils n'étaient pas préparés à ça?
Ah, ben c'est sûr qu'avec l'ampleur que ça a, dans une compagnie d'assurance, il y a des postes qui sont difficilement virtuels, hein? Toutefois, ben, on a, je pense que la capitale fait son devoir social, là. Désolé de nommer ma compagnie, mais la capitale fait vraiment son devoir social pour, elle se préoccupe de ça, puis, il y a des mesures qui sont proposées. Je vous dirais que dans la majorité des cas, on est équipé. On est équipé pour travailler de la maison. Je pense que les postes clés sont identifiés.
Ouais, c'est ça.
Puis, on est en mode urgence. Là, on a des spécialistes en gestion des risques pour la continuité des affaires. Fait que voilà. C'est le branle-bas de combat. On nous donne l'information au compte-goutte. Mais je pense que j'ai un bel exemple. Mon employeur, c'est un bel exemple. Là, on est préparé à ça, puis ils font confiance au personnel, là, selon le jugement.
Ben, c'est là que je voulais m'en aller avec la discussion, justement, Vincent, parce que le plan de continuité des affaires ou des activités, là, je crois qu'il n'y a pas une PME qui a pensé à ça, ou il y en a très peu, disons, puis que là, on se retrouve devant un fait accompli, que là, comme on dit dans le jargon, shit hits the fan aujourd'hui. Fait que, puis c'est plate à dire, mais dans les prochains jours, ça va s'amplifier, parce que présentement, on voit des statistiques seulement, de cas qui ont été documentés, testés, et dont les résultats sont revenus positifs. Ça, c'est les petites statistiques que l'on voit. Mais dans la population, il y en a beaucoup qui se déplacent, ils n'ont pas été testés, ils sont probablement contaminés. Et donc, même que les chiffres se multiplient par 4, par 5, là, juste pour donner un exemple de même, Je ne sais pas quelle direction ça va prendre, mais c'est en tout cas, il n'y a pas grand système qui sont pris, qui sont prêts pour le télétravail là-dessus. Le gouvernement, les autres même, ils disaient au fédéral, justement, en fin de semaine passée, jeudi, vendredi, que là, c'est bien beau mettre tous les fonctionnaires sur télétravail, mais avec quel laptop? La question revient tout le temps là-dessus. Mais avec des mesures d'urgence, comme le premier ministre Legault a dit, ils vont être capables d'aller faire des acquisitions d'urgence. J'espère juste qu'ils ont des bonnes façons de configurer rapidement avec le minimum pour qu'ils puissent à ce moment-là en distribuer. Là, c'est ça le plan. Là. Go!
Comme tu dis, c'est un bon test parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, même les PME, qui avaient développé des plans de pandémie, des plans de mesures d'urgence, des plans de cette nature-là. C'est bien de le faire sur papier, c'est bien de faire des exercices pour le tester. Il n'y a rien comme la réalité pour vraiment mettre à l'épreuve ces plans-là. Puis j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont tomber dans un état de surprise sur le fait que le plan qu'ils ont développé n'était tout à fait à la hauteur de ce qu'ils avaient pu anticiper.
Oui. Ça, là, comme tu l'as dit, ça ramène à dire quand tu mets une structure en place, le test, il faut qu'il soit exhaustif, il faut qu'il soit suffisant. C'est sûr que à partir de grappe d'une centaine d'employés, ça va très bien le télétravail. Mais quand on passe à 2 puis 3 000, les infrastructures ont-elles la capacité de supporter la charge à ce moment-là? Là?
D'abord. Exact. Puis, j'ai des connaissances qui sont dans des entreprises qui travaillent déjà en remote, qui sont à quelques jours semaine, qui ont des VPN et tout, et c'est déjà là. Ça lag déjà dans le concept où ce qui est pas de pandémie. Là, ils se retrouvent 100% de l'entreprise à distance. Ils ont de la misère à lire les courriels en temps normal. Imagine maintenant. Puis c'est pas des petites entreprises là, de 20 à 50 personnes. Là. C'est des milliers et des milliers. Donc, ça risque de tomber puis d'être très complexe là, pour la gestion des admins à ce niveau-là. Là. C'est...
Ben, tu sais, il y a un élément super de fun là-dedans. Nos grands fournisseurs au Québec, Rogers, TELUS, Bell, ils ne dévoileront peut-être pas leurs chiffres, mais la bande passante qu'elles ont disponible, ce serait le fun de voir les statistiques dans les prochains jours, prochaines semaines. Est-ce qu'ils sont, parce que ça va être un vrai test pour ces compagnies-là aussi, là, s'ils ont les reins solides, s'ils sont capables de fournir.
On va voir qu'on paye pour rien présentement parce qu'il y a un nom de la bande passante.
Ça dépend des régions parce que dans des coins éloignés, là, il n'y a pas grande bande passante parce qu'ils n'ont pas upgradé certains sites. Puis ça marche encore avec des T1, des T3 combinés, des T1 combinés, des T3. Là, fait que c'est pas la grosse manne. Puis si je peux vous rassurer, j'ai travaillé 23 ans à défense, puis à chaque opération, c'était quasiment à recommencer tellement que le cycle d'apprentissage n'était pas tel que se rappeler, là, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois dans une situation similaire, parfait, nos plans sont faits. C'était toujours quasiment à recommencer, mais il y avait une structure de base à laquelle la culture était développée pour dire qu'il y avait de l'adaptabilité qui était facile à avoir de la part du personnel puis des éléments décideurs. Alors que dans l'entreprise privée, cette culture-là n'existe pas. Fait que ça serait à développer pour que dans un avenir approché, les gens aient cette agilité, d'adaptabilité dans des cas extrêmes comme ça. Là. Ça serait intéressant. Je suis instructeur, si vous voulez, pour ça.
Puis, pour revenir à ce que tu disais, Vincent, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises que, oui, ils l'ont planifié les choses sur papier, qu'ils ont testé à petite envergure, mais la réalité à milliers de personnes n'est pas là. Puis, je veux pas nommer une entreprise, mais tu sais, dans les 10 dernières années, on est toutes des personnes qui ont fait beaucoup de consultations, puis on les a vues, là, ces entreprises-là. On a vu des entreprises qui ont testé un hot site ou un cold site. Ça marchait pas. Et ils ont jamais, jamais réussi dans les 10 dernières années. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? On verra bien ce qui se passe.
C'est ça, c'est exactement ce que je disais. C'est bien de l'avoir mis sur papier. Maintenant, il faut le mettre en œuvre pour de vrai, avec des vraies volumétries et des vraies affaires. T'sais. De toute façon, pour moi, un site de relève est une absurdité. Ça devrait être un site où, dans lequel on bascule la charge en temps réel pendant que de la vraie production, puis ça est juste capable d'accepter la charge supplémentaire. Mais bref.
Ouais, ça, deux sites live, toujours live en temps réel qui se copient live. Puis au pire, s'il y en a un qui meurt, ben, t'en as deux. Mais refaire un backup 100% à partir from scratch, ouais, c'est avec les environnements d'aujourd'hui, mettons que c'est un peu débile.
En 2020, je suis un peu déçu d'où on est rendu en 2020 avec toute la capacité qu'on a, l'info nuagique, nos connaissances, tout. On n'est pas tout à fait là. On va éviter de s'enliser là-dedans. Il y a d'autres nouvelles COVID que Steve nous a citées, entre autres.
Ben oui, pour répondre un peu à la folie qui a embrasé le Québec et d'autres parties dans le monde, faut le dire, là, sur la surabondance, la surconsommation d'effets de toutes sortes, là, pour pas nommer juste le papier de toilette, ben Kijiji a décidé d'en retirer toutes les annonces pour les arnaqueux là, qui veulent vendre un rouleau de papier de toilette 25$, des affaires comme ça, là, puis du Purel, puis envoyer donc. C'est une bonne initiative parce que justement, autant Facebook, Twitter, ils essaient de retracer les fausses informations qui sont circulées à gauche et à droite, ben ça n'est un aspect que faut arrêter justement les profiteurs de situations comme ça. Déjà là que les compagnies aériennes chargent le triple du prix pour des vols de dernière minute, il faut qu'ils reviennent au Canada, alors que le Canada recommande aux citoyens de revenir rapidement au pays. Ça, je trouve que c'est une bonne initiative que ces plateformes-là de marché aux puces aient pris, parce que sinon, ça va déraper, puis les gens, après ça, ben c'est ça, ils se font arnaquer parce qu'ils pensent qu'ils vont acheter le deal du siècle, puis alors que vraiment, c'est une déroute, là, complètement, je sais pas d'autres mots à mettre là-dedans, là.
Non, effectivement, c'est un peu une bonne chose que ces grandes corporations-là deviennent des bons citoyens, justement pour limiter l'espèce d'arnaquage continu des gens qui profitent de ça. C'est pas vaut mieux aider son voisin ou son prochain que d'essayer d'y voler 5$ de plus parce que tu veux tu profites de l'occasion puis de faire ça. Puis de toute façon, d'un point de vue commercial, on a des lois qui empêchent ce genre d'utilisation-là un peu malveillante des situations qui sont comme ça. Mais ouais. Les malveillants sont les malveillants.
Yep.
Parce que ce qu'il faut comprendre de ça, dans la situation actuelle, c'est quelqu'un qui va vider des comptoirs de Purel. Ça veut, dans un contexte de pandémie, si tu veux gérer la pandémie, c'est parce que tout le monde doit avoir accès au putain de Purel puis le savon. Fait que si toi, si t'es prends tout puis personne n'en a, ben t'aides personne, là, même si tu veux faire 20 000 piastres, on s'en fout de ton 20 000 si tout le monde meurt.
Ouais, ça a des conséquences sociales de cette espèce d'agissement de merde qui fait que les gens ont...
T'as justement un Américain qui a acheté 17 700 bouteilles de Purel.
Ouais.
Le petit clown, on y a dit, c'est de valeur, mais t'es pas nié avec, mon gars.
Ouais, puis tout le monde a sa face. Puis le gars est allé chialer publiquement avec sa photo des nouvelles. Je suis comme, good job, buddy. Maintenant, t'es foutu.
Ouais, il va se créer un alliance avec un autre masque, puis il va vendre ça d'une autre façon.
Mais bref, c'est des comportements qui ne sont pas très souhaitables dans un contexte de pandémie, dans un contexte où les gens... Il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Là. Tu sais, à part les clowns qui vont s'acheter des trucs de façon massive, il y a des gens qui en ont vraiment besoin, même des médications, des différents éléments qui sont achetés de façon massive. Ça nuit à la santé publique, puis ça a l'effet pervers de ne pas aider les gens, puis arrêtez d'acheter en masse, de façon en masse, des choses qui vont périr dans 3 mois de toute façon, que vous allez devoir acheter de toute façon. Fait que laissez-les au moins aux gens qui en ont vraiment besoin.
Ouais, puis juste pour finir là-dessus, je me souviens plus du thread, le trend sur Twitter, mais le monde a commencé à faire des posts pour dire hey, moi, j'ai aucune système immunitaire, tu sais. Penser aux autres. Là. C'est pas parce que toi, tu es en santé que la planète au complet peut survivre ce virus-là. Là. Il y en a du monde qui ont des cancers, puis des maladies, puis plein de conneries. Ils ont l'air en santé, mais s'ils pognent quelque chose du genre, c'est game over.
Ah, c'est triste qu'on doit faire ce genre de rappel-là. Puis c'est un peu en même temps, toutes les mesures de santé publique sont prises par nos gouvernements sont malheureusement nécessaires pour justement cadrer les gens qui manquent un peu de sens commun.
Le civisme.
C'est le genre de situation. Oui. Moi, j'aime bien civisme. C'est, Steve, c'est exactement le bon terme. Donc, basculons le sujet, parce que je pense qu'on l'a battu vraiment encore fort, mais on va encore le battre pendant les prochaines semaines, ce sujet-là, parce que je pense qu'on en a probablement pour 6 mois à en parler, parce qu'on a encore, on est pogné avec comme un bon rhume.
Mais Nick, si tu permets, dans juste pour terminer ce sujet-là, comme tu dis, ce cadre de sujet-là, on a vu deux gros cas récemment sur des systèmes dont la disponibilité n'était pas au rendez-vous alors que c'était en pleine intervention, en pleine crise. Et c'est un hôpital en Tchécoslovaquie qui, elle, s'est fait cyberattaquer. Et le Health and Human Services aux États-Unis, que son serveur de courrier électronique, ben, il a tout simplement planté parce qu'ils ont fait des essais il y a quelques semaines, puis ça a créé de la stabilité. Et c'est un message à passer à tous les sysadmins qui nous écoutent qu'en temps gérant d'opération comme on est là présentement, ben c'est votre devoir de considérer que vos systèmes soient exempts d'arrêt et de considérer de doubler l'architecture pour qu'il y ait justement cette redondance-là qu'on parle dans le plan de continuité des affaires et de pas commencer à faire des essais, des tests ou de whatever, alors que là, présentement, c'est des vies humaines qui dépendent de ces systèmes-là. C'est des systèmes dans les hôpitaux pour collecter toutes les données, tous les échantillonnages. C'est des systèmes qui vont communiquer les résultats. Donc, c'est important que l'intégrité soit au rendez-vous. Est-ce qu'un résultat positif pour une personne qui ne l'a pas bien, c'est un choix, là, tu veux dire. Puis le contraire, c'est un choix de vie ou de mort. Fait que donc, ça devient la responsabilité de technologistes d'être capable d'arrêter ces folies-là puis de s'assurer que les professionnels qui doivent intervenir, ben ils ont le système, qui s'attendent d'avoir la fiabilité dessus. Comme on parlait tantôt de la technologie d'information, même des réseaux de télécom, de cellulaire, ou peu importe, les backbones sur lesquels on dépend, ben ça aussi, eux autres, ils se sont engagés à date publiquement de rassurer les gens, de dire « Hey, faites-vous-en pas, on est là pendant que la crise a lieu. » Ben les systèmes qui sur lesquels communique l'information, faut aussi qu'ils soient au rendez-vous, puis que ça soit du laptop, du PC, de la tablette, jusqu'à l'infrastructure au cœur de l'entreprise. Ben si ça, c'est clean, puis c'est on, comme c'est supposé, puis qu'il n'y a pas de tataouinage avec ça, ben la job va se faire, puis à ce moment-là, les gens, ben ça risque de sauver des vies. Pas de farce là, sur le terme.
Tout à fait, mais on est rendu dans un contexte où clairement, les infrastructures technologiques que l'on a sont rendues des infrastructures critiques. Je pense que les gens en TI, en général, n'ont pas encore mesuré l'étendue de la criticité des systèmes dans lesquels on utilise et à quel point ça sert. Et ça sert, entre autres, à des vies humaines, à préserver des choses, à préserver la stabilité. Donc, on ne peut plus jouer comme des cow-boys à mettre à jour des systèmes n'importe quand, n'importe comment. Et on va probablement devoir malheureusement se faire régir par une entité de normative X qui va obliger, comme la compagnie aérienne et l'automobile ont dû subir aussi parce qu'ils ont été un peu négligents dans la rigueur dans laquelle ils ont traité leur propre sécurité et l'entretien de leur système. Donc, on s'enligne sur ce chemin-là, même si on lutte très fort, malheureusement, parce qu'on est un peu incapable de s'autodiscipliner, disons. Et on va conclure ce sujet-là. Et on a battu le cheval pas mal, même si c'était déjà pas mal à terre, mais il va relever dans une semaine, fait qu'on va continuer de toute façon. SMB3 a connu dans la dernière mouture de SMB3 un certain problème de sécurité. Et qui sont warm-up, et Microsoft a eu comme un glitch de communication à propos de cela qui est fort intéressant d'ailleurs, Steve.
Ah. Microsoft, alors qu'ils ont quand même diffusé mardi dernier, pas loin de 150 quelques mises à jour, correctifs, patch, mettez le nom que vous voulez. Donc, dans la sortie du 10 mars dernier, c'était quand même assez impressionnant parce que je crois que ça faisait un temps qu'il y avait eu autant de correctifs en un moment. Puis, il y en avait déjà eu pas mal aussi dans le mois de février. Mais là, ils ont oublié en même temps, ils ont dévoilé une faille qui était de SMB3, donc Server Message Block, les ports 4 de TCP 445, 137, 138, qui sont propres au service Microsoft. Et là, donne l'occasion de pouvoir à ce moment-là bypasser, peu importe la sécurité qui est autour, et de quand même faciliter l'envoi d'échanges d'informations. Et ça, donc, ça devient quand même assez grave parce qu'il y a quand même aujourd'hui, encore à ce jour, une grande majorité d'organisations qui dépendent de système Microsoft. Et encore là, c'est pas parce qu'ils voulaient créer un événement, mais c'est des choses qui arrivent encore une fois et ça touche directement donc les serveurs Windows version 13.09, 19.09 et les versions Windows 10. 19.03, 32 bits, 64 bits, puis 19.09, 32 bits, 64 bits. Donc, système 7, version 7, c'est-à-dire Windows 7 n'utilise pas que version 3, si mon souvenir est bon, et c'est juste ces plateformes-là qui sont directement concernées. Donc, dans la mouture où ce que y a une majorité de PC qui ont été migrés récemment à travailler avec Windows 10 et les serveurs aussi, donc ça devient quand même assez critique de corriger ces situations-là, et surtout pas les ouvrir publiquement. Encore une fois, comment est-ce qu'on y en a qu'on détecte des systèmes live Windows avec le protocole Microsoft sur Internet, donc direct sur le public. C'est juste fou, là. Fait que ça, c'est des choses à ne pas faire, mais déjà à l'interne, si tout est fermé, puis c'est juste à l'interne, ben voyez-y rapidement.
Ouais, c'est aussi grave à l'interne, là. Faut pas oublier.
Parce que... Et pourquoi ça l'épate?
Parce que toutes les attaques se font à l'interne.
Ouais. Ta-da!
Ça, on s'entend, là. C'est, on en vient des années 2000, mais c'est, la DMZ, ça n'existe plus aujourd'hui.
Sur nos réseaux flats?
Sur nos réseaux flats. Ah. Ouais, malheureusement.
C'est un bon élément de mitigation contre ce problème-là, c'est justement de ne pas avoir le réseau flat parce que tu ne peux pas propager facilement le virus, mais en réseau flat, c'est juste. Ouais. C'est le plus fort, c'est genre, c'est merveilleux.
Ou le concept du zéro trust, mais qu'aucune compagnie qu'on connaît au Québec, ou presque, n'a ça en place, malheureusement.
C'est très difficile de vendre l'idée du zéro trust aux gens techno. Là, c'est excessivement difficile. Puis je me suis fait regarder avec des yeux là, quand j'aborde moindrement juste la philosophie, pas la mise en place. C'est comme. C'est
atroce. Ah, pour vrai, en plus. C'est sûr que la mise en place peut être chiante avec tout ce qui est legacy parce que, je veux dire, il faut que tu rajoutes des layers par-dessus. Il faut que tu codes. Il faut que tu aies un gateway qui parle à toutes tes technologies internes pour faire l'authentification à chacun des calls. Mais c'est la manière de faire les choses et c'est par là que tout s'en va, mais on verra bien plus tard.
Ouais, c'est un changement qui doit se faire lentement aussi. Là. On parle, il ne faut pas arriver de façon dogmatique. Là, je parle à mes pairs en sécurité. Ne faites pas trop peur aux gens techno, s'il vous plaît. Laissez-les les contribuer tranquillement à ce chose-là. Mais Zero Trust, c'est où on s'en va. Il va falloir qu'on le pousse parce que ce genre de bug-là de Microsoft SMB3, dans un contexte de Zero Trust, ça a un effet relativement limité. Contrairement à un réseau flat en lequel c'est juste dévastateur, le réseau va tomber au complet puis on va tout perdre. Un peu un WannaCry 2.0, dans la mesure où ton réseau est flat, t'es juste comme mort.
Ouais, puis tu sais, pour mettre une perspective, test d'intrusion là-dessus, la vulnérabilité que j'ai le plus vue en faisant plus ou moins une dizaine d'années de pentest, c'est tout ce qui est autorisation. Donc, le problème, il est là. T'sais, si je suis user A, j'ai accès à B ou je suis capable d'aller au niveau d'un rôle admin ou supérieur vertical, c'est game over. Puis c'est à ça que Zero Trust sert. C'est sûr qu'il va toujours avoir des bugs d'implémentation, là, puis des injections, puis des gogos, mais ça reste que si c'est moins brisé par défaut, broken by design, on va aller dans une meilleure direction.
Mettons que ça limite les problèmes. C'est comme parce que comme des ceintures et une bretelle, ben au moins tu as une ceinture si tu n'as pas de bretelle, fait qu'au moins tu es un peu moins dans le trouble si tu t'es mis ce genre de situation-là, fait qu'un système non patché a des conséquences un peu moindres que si un système non patché dans un réseau un peu plus.
Ouais, c'est beaucoup plus dur de se propager d'un à l'autre. Parce que oui, tu peux briser un système, mais s'il faut que tu en brises 20, qu'il faut que tu aies une authentification différente sur chacun, que c'est pas juste un ticket. Kerberos poche que tu traverses partout puis qui marche tout le temps, hein, c'est sûr que c'est plus efficace.
Je te comprends pas de quoi tu parles. Okay. C'est complètement étranger à ma vie. Très, très de folie. Basculons, là, c'est justement Apache Tomcat aussi comme un certain nombre de problèmes de sécurité qui sont liés.
Ouais, mais en fait, l'impact de celle-là est assez grand dans le sens que tous les serveurs Apache Tomcat d'à peu près les 13 dernières années sont vulnérables à un bug qui permet de lire et écrire sur les fichiers sur le serveur, donc de faire un takeover du serveur au complet là, avec read-write. Généralement, tu peux installer des backdoors, etc. Et c'est ce qui se passe là, avec certaines campagnes sur le web qui scannent pour ces serveurs-là. Ils installent des backdoors. Donc, si vous avez du Tomcat, assurez-vous que votre version est à jour et que vous avez une patch pour ce problème-là parce que, je veux dire, un peu comme le SMB 3, ça peut être facilement wormable ou utilisé là, pour rentrer dans vos périmètres, etc. Là.
Oh là là, c'est pas super, mais beaucoup de Tomcat de caché, hein, fait que faites attention, il y a beaucoup de
systèmes, ils sont beaucoup plus à l'interne d'habitude. Sur le web, oui, il y en a énormément, mais je veux dire, généralement, en entreprise, surtout au Québec, de ce que j'ai vu, sont souvent à l'interne et non pas exposés. Puis c'est des systèmes que, c'est un logiciel qu'on a acheté, qu'on n'a pas updaté depuis une couple d'années. Ça ressemble souvent à ça, là. Je sais pas pourquoi, mais Tomcat est réputé pour ça, ouais.
Ben, ils sont souvent cachés en dessous. C'est une espèce de moteur d'exécution Java qui est comme en dessous de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'a aucune idée qui existent. Puis c'est tout des black box qu'on a, justement, comme tu dis, qu'on a acheté genre il y a 15 ans, puis on veut laisser rouler encore, puis on n'a jamais patché, là, par exemple.
Oui, c'était dans le contrat, tu n'as pas le droit de l'updater.
Naturellement, on ne touche pas ces affaires-là parce que d'un coup, on pourrait faire que ça aille mieux. Bref, passons à une nouvelle peut-être un peu plus humoristique pour détendre un peu l'atmosphère. Pornhub offre certains services gratuits puisque les gens sont chez eux.
Oh là, faut parler en spanish.
Oui, c'était à toi, c'était qui l'a
mis. Je vais te faire quand je regarde mon Pornhub, je viens tout nerveux, là, je sais plus où je m'en vais, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, oui, effectivement, là, donc, comme bon citoyen, quelqu'un citait ça tout à l'heure, lorsqu'il y a une crise majeure de cette ampleur, ben, ils ont dit, vu que les gens sont pris à la maison, puis on va ouvrir un peu comment est-ce que les gens vont pouvoir se connecter et consommer l'information du site Pornhub qui est hébergé ici à Montréal. Et dans ce sens-là, c'est là que j'ai pas retrouvé, par contre, aucune annonce que Pornhub ouvrait ses portes et ses sites Internet plus grandement que ça pour nous, le consommateur, ici en province, si ce n'est pas au pays. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, alors que les États-Unis, c'est les plus gros clients, mais pas le Canada. Donc, c'est intéressant quand même. Oui, les statistiques vont être drôles à voir sur qu'est-ce qui s'est passé durant la crise, parce que généralement, les gens, lorsqu'ils sont chacun chez eux, même, je ne devrais pas dire ça, parce qu'il y a autant certaines entreprises le permettent encore d'aller sur des sites pornographiques pour encore là assurer le bon état, le moral des troupes, comment on dit ça, ouais. Fait que de cette manière-là, je sais pas comment est-ce que ça va virer. Mais en tout cas, d'ici là, ça veut dire qu'il y a une concentration de trafic devrait s'en aller là, à ces data centers. Puis, on verra plus tard. Ça va être le fun de rapporter ces statistiques-là, parce que d'habitude, ils publient.
Ouais, c'est l'aspect très intéressant de Pornhub, mm-hmm. parce qu'ils ont tendance à publier des statistiques suivant des événements majeurs, des événements marquants. Mais à quel point.
Ils sont déjà là, c'est ça qui est cool. Ils sont pas finales, ouais. Mais je le trouve pas sur le site officiel, mais il y a plein de sites qui rapportent puis qui disent mois de mars, ça partit jusqu'au 11, fait que il y a 4 jours qu'on se parle présentement. L'Italie, augmentation de 13,8%. Fait que ça doit marcher leur truc là. Canada, y a-t-il dans la liste? Je le vois pas. Ah oui, 2,5%. On n'est pas encore là. Ouais, exact. On n'est pas beaucoup pour eux autres.
Les bars sont encore ouverts. Ils étaient ouverts jusqu'à aujourd'hui, au moment de l'enregistrement. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être que les gens étaient un peu moins propices à se concentrer sur des activités à la maison.
Ouais. Au mois d'avril, quand tout va être fermé. D'ici quelques semaines en avril, quand tout va être vraiment fermé et que ça va être la totale isolation, je suis pas mal sûr que ça va passer plus à 20-30%.
Mais ça va nous amener encore une fois sur une autre discussion qu'on aura dans un autre podcast sur encore une fois que les activités vont être normales, c'est-à-dire de la vie courante, vont être ramenées dans le cyberespace. Qu'est-ce qui préoccupe les gens ou comment est-ce que les gens s'occupent? Fait que là, l'Auto-Québec, ben, il va fermer ses casinos, mais d'après moi, en ligne, ils vont les garder ouverts. Fait que donc, ça va amener tous ces éléments-là que, oups, les gens vont se divertir comment, alors qu'ils sont habitués à un certain régime de vie pour 2-3 semaines. Là, non, ça change drastiquement.
Ça va binger sur Netflix intensément, j'ai l'impression.
Mm-hmm. J'ai le lien, excuse Nick, j'ai trouvé la passe,
Des statistiques.
Ouais.
Fait que, c'est parfait. Ben, ça va dans les show notes. Show notes, yes. C'est important. Allez visiter nos show notes.
Toujours.
Bref, tant qu'à parler de ce genre de choses-là, ben, on va faire une bascule vers les fake news. Steve a 2 fake news à nous entretenir.
Et oui, mais ce n'est pas par rapport au fameux président américain. Donc, quoi qu'il y en a dit une cette semaine, alors qu'il a fait une déclaration de presse disant que Google sont en train de préparer un site web pour les besoins de la nation, alors qu'ils sont en train de faire une expérience, eux autres, seulement que dans la région de San Francisco. Il n'était pas question qu'ils appliquent ça au reste du pays. Mais ça, c'est une fake news de leur bord. Mais pour nous autres, de plus en plus, il y a une photo, des photos, qui circulent sur les médias sociaux de déploiement de véhicules militaires qui auraient été aperçus en début mars. Effectivement, autour du 6-7 mars, le véhicule militaire partant de la base de Valcartier ont passé par l'autoroute 40, se dirigeant pour l'autoroute 15, aller vers le sud pour aller prendre le chemin de la 81 via la 401 pour s'en aller vers Fort Drum aux États-Unis. Tout ceci dans le cadre d'un exercice qui a longuement été préparé avant la pandémie actuelle. Et ces véhicules-là, donc, c'est des véhicules de soutien pour des éléments militaires qui sont en exercice, qui sont toujours là, d'ailleurs, au moment d'enregistrer ce podcast-là. Fait que donc, ceux qui essayaient de dire, regardez, l'armée se prépare à quelque chose, le gouvernement ne nous le dit pas, mais ils vont fermer Montréal, puis ils vont encercler Montréal avec l'armée, puis ça va être la débandade totale. Mais non, non, c'est pas ça pantoute qui se passe, là, puis c'est malheureusement la situation dans laquelle on baigne, là, les gens, ils perçoivent des choses, ils s'informent pas plus, puis autant que ça n'a pas été médiatisé à tort et à travers, c'est pas le but, mais c'est juste que ça...
C'est de la cochonnerie de commentaires sur les réseaux sociaux. Ben, ne vous fiez pas aux réseaux sociaux pour les nouvelles.
Merci, c'est ça, c'est le message qu'à la fin, il faut retenir. Là. Il y a même affaire en Europe, d'ailleurs, se propage avec un exercice majeur qui a lieu de l'OTAN en Europe, qui même que ça fait un mois qu'ils sont en train de mettre ça en place pour que tout le monde puisse y participer. Et qu'est-ce que ça a commis? Même chose, ça a commis que les gens voient des véhicules monter sur des flottes de train ou dans les rues, etc. Là, ils se disent, ben l'armée est partout, là, c'est sûr qu'ils vont fermer tout, puis que l'armée va être... C'est la loi martiale doit être instaurée. Donc, avant de conclure sur des éléments comme ça, c'est vraiment de vous fier à des canaux d'information officiels et de ne pas céder justement à la panique des rumeurs. Et tout ce qui est médias sociaux, tant qu'à moi, ça prouve que c'est rumeur tant que c'est pas prouvé autrement. Pareil comme les statistiques de ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, ceux qui ont réussi à faire un vaccin ou aller chercher l'information parce qu'il y a des fake maps qui existent qui, à ce moment-là, avec du code automatisé, vont vous télécharger ça dans le visage, puis vous verrez rien, puis votre machine va être compromise avec des ransomware, possiblement. Fait que donc, soyez prudents. Voyez à vous ce que ce soit les bonnes sources avec lesquelles vous travaillez.
Effectivement. Puis de toute façon, j'ai l'impression que les gens sont juste plus attentifs à des mouvements des militaires, contrairement à ce qu'il y avait avant. On les faisait les mêmes mouvements avant, c'est juste que maintenant, on est comme plus attentifs et on y donne une signification autre que ce que c'était vraiment. Ils font juste des pratiques parce que ils font des pratiques, ils déplacent leur stock, parce que c'est normal de déplacer leur stock. Fait qu'il n'y a pas de en tout cas, pour le moment, encore pas de grand mouvement, mais je pense pas de toute façon qu'ils vont être plus subtils que ça. Anyway, là, arrêtez de penser que vous êtes capable de comprendre ces stratégies-là qui sont discutées à huis clos avec des gens très serrés. Puis si ça allait arriver, vous le verrez pas. Anyway.
Ben, là-dessus, Nick, je peux te rejoindre en disant que ça va être de toute façon transmis publiquement. À date, le gouvernement provincial, il joue pas mal une carte de transparence, ils sont assez keen sur l'approche. S'ils veulent faire une demande au pouvoir civil, donc avoir l'assistance des militaires pour faire que ça soit de l'aide au pouvoir civil pour aider les médicaux à faire des tests, des choses comme ça, veut dire ils vont être transparents dans l'approche. Ils n'iront pas dire il se passe rien, puis d'un coup, du jour au lendemain, les barricades vont être montées avec les militaires. Puis en même temps, justement, il y avait une joke qui circulait que le gouvernement fédéral devrait demander l'aide des Autochtones, des Indiens pour venir aider à bloquer l'entrée au pays des immigrants pour prévenir les porteurs de bébites. Est-ce que vous avez dit ça comme ça? Là, mais ouais, j'ai trouvé ça pas pire. S'ils sont capables de bloquer des trains, ils sont capables de bloquer les aéroports, ils sont capables d'arrêter justement le chemin Roxham qui arrête d'avoir du monde qui est rentré ici et qui sont contaminés. Mais, là, ça, c'est un autre éditorial.
C'est un grand débat, mettons, ce genre de choses-là. Puis c'est... dans des zones obscures dans lesquelles on ne peut pas parler très publiquement. Là, ça... Bref, on va changer de nouvelle. En Europe, il y a un cercle, un ring d'échange de SIM pour les cellulaires qui a été arrêté.
Ben oui, c'est le phénomène SIM swapping. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu ça passer récemment, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements comme ça que des gens se sont fait voler, pour pas dire complètement retirer l'usage de leur cellulaire, et ça par la copie intégrale de la carte SIM qui les pas fins, eux autres, ils ont mis la main là-dessus, puis ils étaient capables à ce moment-là de recevoir. Le code à 6 chiffres pour le deuxième facteur d'authentification, c'est souvent la stratégie qu'ils utilisent parce que s'ils connaissent l'accès, exemple, d'une boîte Gmail, Yahoo, peu importe, et qu'il y a un deuxième facteur d'authentification dessus, ben le code à 6 chiffres, maintenant, c'est les pas fins qu'ils reçoivent, en plus qu'ils ont eu le mot de passe pour être capable donc d'y accéder puis d'avoir accès à votre vie électronique. Fait que ça, je suis bien heureux que l'Europol ont pu faire ce genre de démantèlement de crime organisé. Puis de toute façon, on sait, quand il y en tombe un, il y en a deux qui repartent. Mais ça avance, au moins, ils savent le modus operandi, comment est-ce qu'ils travaillent, où est-ce qu'ils ont travaillé, avec qui ils collaboraient. Donc, ça s'étendait très large à travers la planète. C'est pas juste l'effet de quelques larcins en un lieu seulement. Et donc, la technologie reste pareille à ce jour, puis même avec 5G apparaissent, là, ça changera pas parce que il y a des vulnérabilités comme ça dans la technologie. Et une des façons, si je peux vous recommander, messieurs, dames, verrouiller votre carte SIM dans votre téléphone, ça va vous aider. Verrouiller la carte SIM présentement, les télécommunicateurs, eux autres, ils en font rien. Ils gardent le mot de passe par défaut, soit 4-1, donc 1-1-1-1, ou bien 1-2-3-4, sont les mots de passe par défaut du fabricant. Et les télécommunicateurs le savent, ça. Et là-dessus, si vous voulez protéger votre SIM, justement, mettez un mot de passe qui vous est propre à vous. Et laissez pas n'importe qui manipuler cette carte-là, parce que c'est ça qui identifie votre abonnement avec le téléphone.
Ouais, je te dirais qu'au Canada, ou probablement aux États-Unis, sont très peu faibles. En Europe, ce que j'ai vu quand j'ai acheté les cartes SIM, ils viennent tous avec un mot de passe par défaut qui semble être aléatoire. Semble. Je ne vais pas vérifier. Mais j'ai l'impression que la culture au niveau européen est un peu différente au niveau de cette mot de passe-là. Fait que ce qui est peut-être une bonne chose en soi. Nord-américain, s'il vous plaît, activez-le, le maudit mot de passe, c'est facile. C'est dans votre cellulaire, c'est les options, là. C'est de base.
Oui.
Faut faire des choses de base. Hygiène de base, c'est laver les mains.
Oui, la cyberhygiène.
C'est la même chose. Puis justement, en parlant de cyberhygiène, il y a un sondage mené par IBM qui a découvert que 38%, seulement 38% des gens, des employés du gouvernement américain, j'imagine, sont sensibilisés tout au niveau des rançons logicielles.
Et ça touche aussi les petites et moyennes entreprises. Je l'ai mis celle-là ici, les gars, parce que la ville de Châteauguay, il n'y a pas longtemps, ben, s'est fait rentrer dedans par du ransomware. Et j'ai pu avoir des communications avec c'est des amis qui ont travaillé pour justement faire la prévention de et la protection de leurs infrastructures et des sites, etc. Puis la ville, comme bonne grande organisation responsable, les envoyait paître. Et autrement dit, ils les amenaient sur un plateau d'argent. Regardez, voici vos vulnérabilités, là, vous devriez corriger ça parce que vous allez dans le trouble. C'est ça qui est le problème. Puis le sondage que je mets ici, c'est un sondage américain. Puis j'ai appelé IBM, puis ils m'ont dit non, ils n'ont pas de données canadiennes là-dessus. Donc, 38% des petits gouvernements, donc d'États et de locaux, donc municipaux, ils prennent pas le temps de former le gens. Puis quand j'ai épluché un peu la ville de Châteauguay, ben j'ai vu le qui est en charge de l'informatique, qui est une dame qui est là, ça fait plus de 35 ans de service. Donc déjà, la personne pense plus à la retraite que l'actuelle, avec deux autres personnes qui sont des jeunes dans le domaine. Mais rien en cybersécurité qui transpirait de la ville. Et pourtant, le maire, on le voyait devant un rack à serveur, puis il dit, ça, c'est épouvantable qu'est-ce qui nous arrive. Mais moi, ça me donne tout de suite l'impression, puis en épluchant d'ailleurs la sécurité de leur site web, leur plateforme, les quelles versions qu'ils avaient, etc. Toute l'information publique, là. Mais que, comme attaquant, quelqu'un voudrait faire du mal, bien, il a accès à ça. Puis là, tout de suite, moi, ça m'a donné l'idée, si tu n'es pas capable de sécuriser ta porte d'extérieur, si tu n'as pas, à ce moment-là, ton information qui est mieux sécurisée que ça, ben, il y a déjà, ça transpire un peu la culture qui règne à l'intérieur de l'organisation. Donc, les petites et moyennes entreprises, surtout les organisations municipales, bien, c'est de voir à ce qu'ils protègent davantage leurs infrastructures, parce qu'encore une fois, là, c'est qui va payer pour ça? Bien, c'est les citoyens. Et les citoyens, bien, il y a d'autres choses à payer que juste des failles informatiques, il y en a qui n'ont pas pris le temps de documenter et de faire vérifier. Parce que faire un pentest, des gars, vous en avez fait aussi plus que moi, ben c'est pas grand-chose dans le fond, puis ça donne l'heure juste, n'est-ce pas?
OK, ben là, je viens, parce que je ne l'avais pas checké avant, mais tu m'as intrigué, mais je suis allé sur le site de la ville de Châteauguay. Ouais, c'est pas beau, là. ça roule du ASP, pas du ASPX, là, du ASP. Donc, yep. Ben, ça roule encore. Fait que n'importe qui veut rentrer peut rentrer. Là, c'est pas mal ça. Oh, lif. Mais ça,
on peut dire. Là. Problème, mais c'est tout un problème de financement parce que. C'est un problème de financement parce que les gens pensent que tu l'achètes une fois, tu le payes plus, tu l'entretiens plus.
Ah, ça, oui.
Ça vit beaucoup dans la tête des gens et des entreprises. Un peu genre, j'ai asphalté ma cour, plus jamais je vais avoir rien à faire dessus. C'est pas vrai parce que faut que tu mettes des choses pour le rendre étanche, faut que tu l'entretiennes, sinon ça craque, sinon ça disparaît. Sinon,
au niveau municipal, ça fait du sens ce que tu dis, dans le sens qu'ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas d'argent pour avoir quelqu'un qui leur dise genre comment ça marche.
Il y a des consultants comme nous autres là, qui existent. Ils le savent. Mais ils ne prennent pas la décision d'aller faire, d'aller chercher cette externe.
Oui, mais ils n'ont même pas la connaissance pour savoir qu'ils devraient au minimum aller engager quelqu'un en sécurité. C'est ça que je veux dire. Puis, tu sais, si on regarde le cas de ça, les compagnies qui ont été engagées pour faire la sécurité du hack sur Châteauguay, c'était terrible. Là. Je veux dire, engager des compagnies qui n'avaient aucune ressource en sécurité. Zéro personne. Fait que comment tu veux... Tu sais, je veux dire, la compréhension est extrêmement loin.
Non, mais c'est les petites municipalités... En dehors des grandes villes, genre Québec-Montréal, sont très démunies en termes de compréhension de la technologie et compréhension de la sécurité liée à la technologie. Fait qu'ils sont un peu au dépourvu pour de multiples raisons, mais en 2020, en même temps, ça s'excuse plus tellement cette espèce de non-connaissance de ce que c'est.
Exact. Je pense que tu as couvert ce qu'il fallait dire là-dessus.
C'est tout! Fait que, s'il vous plaît, les villes, protégez nos informations, protégez les informations de vos citoyens, c'est important. C'est très important en 2020 de faire ce genre de choses-là. Et lisez les nouvelles, voyez à quel point le nombre de villes en Amérique du Nord, États-Unis et Canada qui se font toucher. C'est très important. Niaisez pas avec ça. Il y a des villes qui ont été arrêtées pendant plusieurs semaines à cause de ça. Mais lisez, s'il vous plaît. Fait que, on va passer à l'autre nouvelle et qui est justement un peu en rapport avec le fait qu'on doit majoritairement travailler à distance maintenant. On s'est aussi rendu compte que des infrastructures très hautement sécurisées ne permettent très difficilement le télétravail. Donc, ça crée des défis supplémentaires pour les entreprises qui veulent télétravailler.
Oui, parce que si on veut utiliser des laptops, exemple, pour travailler de l'information hautement confidentielle ou pour dire secret ou très secret, ben, tu peux pas faire ça parce que l'environnement physique ne le permet pas. Je veux dire, tu peux travailler un texte, une présentation dans un café Internet parce que c'est une connectivité, c'est sécuritairement VPN, tu t'en vas te connecter à l'organisation. Mais autour de toi, là, il y a des gens là qui scrutent qu'est-ce que tu fais comme information, qu'est-ce que tu manipules. Donc, c'est tout cet aspect-là que c'est pas nécessairement automatique. Donc, qu'est-ce qu'on en revenait à dire en début d'émission, c'est que si vous avez affaire du télétravail, ben il y a tout un aspect d'évaluation sur qu'est-ce que vous allez produire, comment vous allez le produire, où vous allez l'imprimer. Au même titre qu'au bureau. Au bureau, vous le voyez pas, c'est transparent parce que ça a déjà été fait. Ça fait longtemps que c'est fait de même, puis c'est pour ça que le bureau est structuré d'une telle façon. Pour ça, vous avez des cartes d'accès physiques, etc. Alors que quand vous arrivez en télétravail, parce que vous êtes sur la route, vous allez dans un hôtel, vous êtes chez vous, ben c'est là qu'il faut prendre conscience de l'environnement qui est autour de vous, qui peut potentiellement compromettre cette information.
Entre autres, d'ailleurs, les gens sont très amusés au bureau parce que j'ai un protège-écran. Parce que, justement, je veux pas que les yeux curieux viennent voir sur mon écran. Je l'avais fait il y a très longtemps parce que je prenais souvent le train entre Québec et Montréal. Fait que je voulais pas que mon co-passager puisse voir ce que je travaille sur mon écran. Parce qu'en général, je travaille avec de l'information qui est relativement sensible. Donc, je suis pas très favorable à ce que les gens puissent sniquer sur mon écran. Et ce comportement-là, maintenant, est rendu en rencontre régulièrement où tout le monde apporte maintenant son laptop en rencontre. Et comme je suis le seul qui a un cache-écran, tout le monde regarde sur l'écran de l'autre pour aller voir sneaker un peu ce que l'autre fait. Quand ils arrivent sur mon écran, ils sont un peu déçus parce qu'ils ne peuvent pas voir grand-chose. Et heureusement, parce que l'aspect très intéressant, cette façon-là s'est contaminée. Il y a plusieurs personnes à l'organisation qui ont décidé de s'acheter des protège-écran, des filtres polarisés, pour empêcher que les gens, que leurs voisins de rencontre puissent sneaker sur le contenu de leur écran et donc voir l'information. Fait que c'est important d'être sensibilisé à ce genre de choses-là. Mais tu amènes un point sur le café Internet, mais il y a des contenus, puis comme toi, comme ancien militaire, tu dois être très conscient de ça, qui ne peuvent pas sortir physiquement des lieux. Et c'est très problématique dans un contexte de pandémie de permettre à ces gens-là de continuer à travailler. Ils ne peuvent pas faire le télétravail. Donc, c'est le choix un peu difficile, j'imagine, pour les organisations de stopper des dossiers que tu ne peux plus travailler parce qu'il faut que tu les travailles physiquement dans les locaux versus permettre le télétravail.
Bien, c'est une décision d'organisation, mais il faut l'anticiper. Là, ça, c'est pas quelque chose que du jour au lendemain, on vient de se rendre compte qu'il y a de l'information qu'on ne peut pas travailler à l'extérieur. Come on! Donc là-dessus, il faut qu'il y a une conscience de la gestion couplée avec l'évaluation de menaces et de risques pour mener à ça, Vincent.
Oui, juste un petit élément, on va dire humoristique. Il y a combien d'entreprises où les conjoints conjointes sont dans des positions d'autorité au sein de compagnies différentes qui se compétitionnent, qui vont se retrouver dans un drôle de situation, on va dire. Puis il y a des éléments là-dedans qu'on, écoutez, on peut pas rentrer dans le champ à coucher de toutes les personnes, là. Mais bon.
Google le fait, Amazon le fait.
Moi, je veux pas rentrer dans le champ à coucher des autres, ça m'intéresse pas. Je peux pas la mienne, pas celle des autres.
Pornhub le fait.
Mais tu soulèves un point très intéressant sur le fait du partage parce qu'il y a beaucoup de gens, puis là, ça ramène tout le fait. Est-ce que, à quel point, puis là, il y a différents axes là-dedans. Le secret protégé de la chambre à coucher qui est inscrit dans le Code criminel au Canada. Tout cet espace-là et tout cet espace-là aussi. Qu'est-ce qu'on peut discuter avec nos conjoints conjointes sur le fait de qu'est-ce qu'on fait dans nos jobs respectifs et jusqu'à quel point notre, mettons, vœu de confidentialité se répercute jusque dans notre vie de couple. C'est un aspect très intéressant à discuter. Je connais des gens qui sont très très à cheval, qui sont vraiment frontières complètes. Et je connais des gens qui sont un peu plus souples, mettons, sur l'application de ces règles-là face au conjoint minimalement.
Donc, ils vont surtout aux Pays-Bas?
Entre autres. S'il vous plaît, intervenez parce que vous avez quand même, Steve et Patrick, probablement des opinions très intéressantes là-dessus. Là. À part juste rire.
Plus Steve, c'est lui qui a plein de clearance militaire.
What the fuck?
On ne parle pas comme notre tentative de député en Beauce qui a partagé avec sa girlfriend, machin, qui était liée au crime organisé. Là, on s'entend, là, on parle de genre une relation légitime avec quelqu'un qui a une clearance équivalente à la tienne.
Hey, attention, le Maxime, là, il c'est un bon député.
Ouais.
Moi, c'est spécial. Il n'est plus député. C'est les électeurs ont porté leur choix, c'est tout.
Exactement. Ben ça, c'est un très bon exemple de ce qui est arrivé avec M. Bernier, d'apporter du travail à la maison en présence de quelqu'un qui n'était pas justement vérifié, vouché, validé, mettez le terme que vous voulez, et que ça a donné qu'elle a eu accès à cette information-là potentiellement. Donc, c'est-tu intentionnel? Je ne crois pas, mais il reste pareil que le potentiel y est là. Puis ça a même affaire avec l'ordinateur. Là, ça va plus vite à cette heure, tout est accessible par l'ordi. Fait que c'est juste de dire que deux clics, puis c'est partagé. Là. Fait que faut juste y voir, puis que les bonnes personnes puissent former ces gens-là avec ce qu'ils n'utilisent que l'ordinateur pour les fins appropriées. Puis quand c'est trop chaud, quand c'est du matériel trop croustillant, bien que ça reste au bureau. Ça règle la question.
Effectivement, j'en suis entièrement d'accord avec ça. Mais tout ça, c'est très intéressant parce qu'on s'en vient dans un contexte où, nous quatre, on est tous dans un contexte, on a à un moment donné, un autre, l'information qui ne doit pas sortir du bureau dans lequel on touche dans le cadre de notre travail. Fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on sensibilise les collègues parce que eux ne sont peut-être pas au même niveau que nous autres sur ce genre de choses-là, tout dépendant peut-être pas des collègues immédiats dans notre département, mais dans d'autres départements. Je regarde Vincent parce que je sais que dans son département, il doit être beaucoup plus sensible à ça. Mais à l'extérieur, son département doit être un peu moins sensible à ce genre de contexte-là puis comment ils peuvent matérialiser ça. Et ça revient à dire qu'il y a peut-être des postes qui sont peut-être plus difficilement télétravaillables que d'autres. Et à ce moment-là, est-ce qu'il vaut mieux les mettre dans des bureaux isolés puis les isoler un des autres que les mettre dans des grands champs de cubicules où tous ces beaux virus se circulent entre les gens et se propagent avec un grand plaisir?
Parce que tout le monde est à moins d'un mètre d'un de l'autre et que tout le monde se tousse allègrement dans le visage. C'est-tu pas beautiful?
Tout c'est dans votre coude, quand même, arrêtez, puis lavez-vous les mains, surtout quand vous allez aux toilettes, parce que 50% des gens, je vous vois, on a tous remarqué, 50% du monde que je côtoie dans les toilettes ne se lave pas les mains en sortant, s'il vous plaît. Un minimum d'hygiène,
ouais, ça fait avec la pandémie, dès que vous sortez de la maison, puis vous embarquez dans un auto, peu importe, là, vous êtes à risque. Puis quand vous revenez, même chose. Fait que l'entrée-sortie, là, vos clés là, de voiture ou de maison là, sont considérées virulente. Donc, votre ton cellulaire. Oui, merci de le dire.
Le cellulaire, il y a tellement de cochonneries.
Ça, c'est dégueulasse. Puis, on s'entend, dès que tu sors de la maison, tu vas le checker ton cellulaire. Si tu embarques dans une voiture, tu touches à tes clés. Si tu touches, tu as une porte, donc nécessairement, tu as des clés. Donc, dès que tu as lâché ça, il faut que tu laves ton cellulaire et tes mains dès que tu rentres et techniquement, dès que tu sors ou tu touches à quelque chose.
By the way, pour tous ceux qui sont adeptes d'avoir leur cellulaire à la salle de bain pendant qu'ils font une des deux jobs, sachez que tous ces bactéries-là se propagent sur votre cellulaire pendant que vous êtes dans cet endroit-là. Donc, si vous allez dans cet endroit clos dans lequel vous faites une des deux jobs, ça se peut que le contenu se ramasse par les airs sur votre appareil que vous propagez partout. Fait que réfléchissez beaucoup à tout cet élément-là aussi de propagation. N'est-ce pas, hein? Vous avez un petit peu de marde sur votre cellulaire?
C'est comme un beau poteau dans un métro là, quand tu tiens vrai.
Je pensais que tu étais pour dire dans un autre lieu qu'un Pornhub.
Okay. Non.
Ne mettez pas votre main dans le visage, bref, parce que vous avez...
Pas mal sûr que c'est mieux que le métro, ça.
Anyway, vous allez mettre des affaires dans votre face. Faites attention. Fait que là, je pense qu'on a fait éclater de rire tout le monde au nouveau. Fait que c'est parfait. Fait que sur ça, on va aller avec pas la dernière nouvelle, mais le dernier élément que Patrick a soumis sur le fait que pendant que vous êtes contraint à être chez vous, il y a des lectures intéressantes qui sont disponibles sur le show notes. Et le Slack du Hackfest est toujours disponible si vous venez échanger, parler de vos choses. C'est un bon moment parce que vous êtes contraint à être chez vous et à vous emmerder et à regarder le plafond. À la place de regarder le plafond, il y a quand même le Slack, parce qu'on peut échanger des informations, faire des recherches. Puis il y a beaucoup de memes ou de textes sur Twitter, entre autres, qui mentionnent.
Puis on est aussi beaucoup de monde à travailler remote à l'année longue. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une tonne de personnes qui nous écoutent présentement vont switcher en remote. Ils n'ont jamais travaillé en remote, ils ne savent pas trop comment faire, c'est quoi les risques, mais les bonnes méthodes pour être capable de travailler. Donc, gênez-vous pas pour venir nous jaser ça.
Effectivement, puis c'est pas donné, parce que justement le manque d'expérience que les gens ont au Québec en général à travailler à distance, c'est peut-être un manque grave. C'est un style différent. Les gens plusieurs personnes sur le Slack du Hackfest le font régulièrement. J'en connais plusieurs, dont Patrick en est un. Mais il y en a d'autres aussi. Fait que profitez de cette expérience pour bénéficier. Faites de la recherche aussi. Profitez de ce temps-là parce que vous êtes contraint. Faites de la recherche en sécurité. Améliorez vos skills. Améliorez vos choses. Éduquez-vous. Les ressources sont disponibles. Informez-vous aux sources légitimes. Par exemple. Hein? Oui, Steve?
J'en faisais manuellement pour te dire oui, exactement, pour que ça soit des sources légitimes, pour pas dire juste des sources honnêtes. Là. Ça va faire toute la différence entre la panique et justement la compréhension de la situation.
Donc, on va conclure l'épisode qui est quand même long. Il y a quand même deux nouvelles qui restent que Steve nous a données qu'on n'a pas parlé. On a quand même fait un bon tour cette fois-ci. Là. Il reste juste deux d'habitude, il reste plus que ça. On est quand même bon. Protégez-vous, toussez dans votre coude, lavez-vous les mains. Hygiène réelle, hygiène virtuelle. Appliquez aussi les choses au même niveau de l'entreprise, cloisonnement, et ainsi de suite. On en a parlé abondamment aujourd'hui d'ailleurs. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Je veux dire un grand punch. Probablement trois épisodes vont sortir d'un coup. Fait que celui-ci, il est le troisième des trois qui va sortir d'un coup. Fait que vous allez voir probablement genre 3 heures de podcast à écouter. Fait que bonne écoute. Et un mot de la fin, vous, un de vous trois?
Et bonne pandémie!